Vous savez, frères et sœurs, de bonnes choses et de mauvaises choses nous arrivent tous. Mais quand de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, nous sommes portés à réfléchir, nous sommes portés à méditer. Vous savez, Jésus m'a donné un énoncé simple que parfois, nous fait réfléchir aussi, c'est il a dit qu'il fait lever son soleil sur les justes et les injustes, et qu'il envoie sa pluie sur les bons et les mauvais. En matière de souffrance, la Bible explique aussi qu'il y a des éléments qui n'ont pas connexion ou rapport nécessairement avec notre comportement, mais que plutôt il y a des temps et des circonstances. Et Jésus-Christ, par contre, a dit, est-ce que nous en tirons les leçons essentielles? Et nous connaissons le récit que nous donne, par exemple, l'évangéliste Luc. Lorsque Jésus-Christ va faire allusion à deux événements tragiques qui sont arrivés de son temps à lui et du temps de ses compatriotes. Le premier événement, on le retrouve dans Luc 13, versets 4 à 5. Et c'est les nouvelles de cette époque, c'était quand même extrêmement tragique parce qu'il dit, c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables ou plus méchantes, si vous voulez, que tous les autres habitants de Jérusalem? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une tendance humaine à se renforcer en disant, moi, ça ne devrait pas m'arriver de telles calamités parce que ça arrive seulement à ceux qui ont un comportement très mauvais. Alors Jésus-Christ tout de suite corrige. Il dit, pensez-vous vraiment ça? Il dit non. Non, ces personnes-là n'étaient pas plus méchantes. Et c'est assez intéressant parce que le deuxième exemple va nous dire que même ces personnes, les prochaines, étaient loin d'être méchantes. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, si vous ne vous tournez pas vers Dieu suite à ces événements qui ont coûté la vie à 18 personnes, ben, votre sort sera le même, vous périrez tous également. Alors donc ici, Jésus-Christ nous dit qu'il y a des temps où il y a des événements qui arrivent. Oh, peut-être que la tour avait un problème de construction, peut-être que quelqu'un n'a pas bien fait son travail, peut-être que quelqu'un n'a pas averti du danger, mais toujours est-il qu'il y a des temps et des circonstances et ces gens-là étaient à la mauvaise place au mauvais moment. Le prochain événement qu'il va raconter, c'est concernant quelque chose d'encore plus désastreux, parce que là, ce sont des hommes qui ont causé la mort d'autres hommes. C'est dans Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Donc, ils venaient de la même région que Jésus, dont Pilate. Alors, c'était les autorités romaines de l'époque avaient mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Alors, si on comprend l'histoire, c'est que ces Galiléens étaient allés à Jérusalem pour offrir des sacrifices, mais Pilate est intervenu pour une raison ou pour une autre et a voulu châtier des Juifs pour montrer qui est en charge, et ces Galiléens étaient là à ce mauvais moment, alors que leur intention était d'offrir à Dieu des sacrifices. Et il va poser la question, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Alors Jésus-Christ dit, il y a de la souffrance impliquée dans ça. Peut-être que ce n'est pas un accident qui a tué quelqu'un sur le coup, mais c'est de voir l'angoisse de ces gens qui ont été arrêtés et simplement exécuté pour donner un exemple à d'autres de d'obéir d'abord à l'homme plutôt que d'obéir à Dieu. Alors la réponse de Jésus-Christ dit, est-ce qu'ils étaient, avaient fait quelque chose de terrible? La réponse est non. Je vous le dis. Mais si vous ne changez pas votre comportement, si vous ne vous tournez pas vers Dieu, vous aurez la même fin, vous périrez également. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Donc, ils s'étaient trouvés pris, ces personnes s'étaient trouvées prises dans des événements indépendants de leur volonté. Dans des situations violentes, des innocents sont souvent blessés ou tués. Et cela peut arriver à n'importe qui. À moins que Dieu ne protège miraculeusement le ou les individus en pareil cas. C'est sûr qu'une des leçons que nous apprenons dans la parole de Dieu, c'est d'être toujours conscient que quels que soient nos projets, il y a les temps et les circonstances, il y a l'imprévisible. Et c'est une leçon que Jacques, le demi-frère de Jésus veut que nous ayons, mais j'aimerais un petit peu accentuer le fait que ce n'est pas un mot de passe magique ici que Jacques nous donne. Vous savez, parfois, on essaie de s'abriter un petit peu aujourd'hui parce qu'on connaît cette parole de Jacques et on dit, ah oh ben, tu sais, je vais être sûr de dire les bons mots. Alors, quelle est cette parole de Jacques? Eh bien, elle se trouve bien sûr dans sa lettre. Lettre de Jacques, chapitre 4. Versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Donc, il y a un voyage prévu ici. Nous y passerons une année. Oh, c'est un voyage qui est à long terme. Nous trafiquerons, autrement dit, nous ferons du commerce et, bien sûr, nous gagnerons. Nous gagnerons notre vie. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Autrement dit, vous avez des projets. J'ai des projets. J'ai une visite à faire. Mais je ne sais pas ce qui arrivera non seulement demain, mais même aujourd'hui. Est-ce que je suis conscient que je ne contrôle pas le temps et les circonstances de manière absolue? La question. Car qu'est-ce que votre vie, qu'est-ce que ma vie? Vous êtes, je suis une vapeur. Wow, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et un peu de temps, c'est dans la perspective de Dieu, hein. Bien sûr, nous sommes habitués à compter les journées, à compter les heures, et c'est bien comme ça. Mais dans la perspective divine, qu'est-ce qu'une année? Si ce n'est, n'est-ce pas, qu'un tour de la Terre autour du Soleil, hein, qui fait son ellipse. Dans la perspective de l'éternité, c'est peu de choses. Vous devriez dire, alors vous qui, dans un sens, ne contrôlez pas le temps, les circonstances, vous devriez dire ceci. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et bien sûr, c'est cette conscience-là que Dieu possède notre vie. Dieu est en charge. Dieu a un plan pour son peuple. Dieu a un plan pour chaque personne et Dieu a un plan encore plus précis pour les enfants de Dieu. Toutefois, Dieu permet le temps et les circonstances. Dieu permet le libre choix, mais il permet aussi des événements et l'exercice aussi du libre choix des autres de nous baigner, si vous voulez, dans une atmosphère d'imprévisibilité. Alors, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela, mais pas comme un mot magique, mais comme une prise de conscience qui fait que à chaque jour, comme dit Jésus, suffit sa peine. Nous allons nous concentrer, et j'ai aimé l'utilisation de M. Houllier sur, n'est-ce pas, que lorsqu'il pense à Tim, par exemple, avec son travail, il dit, j'ai beaucoup de peine. Hein, j'ai beaucoup de peine, dans le sens que j'ai comme, je trouve c'est lourd, et je suis avec lui dans cette peine, dans son travail. Au Québec, le mot peine a un sens aussi un peu émotionnel. J'ai de la peine, j'ai de la tristesse. Alors, je dirais que il y a un peu ça aussi. La tristesse, dans le sens, j'aimerais tellement plus l'aider. Mais c'est la même chose aussi avec le quotidien. Si Dieu le veut, je ferai ma part, mais je sais que j'ai besoin de la protection divine et j'ai besoin aussi dans l'épreuve de voir la main de Dieu. Ne de pas dire, ah oh oui, mais Dieu n'a pas exaucé ma prière aujourd'hui. Dieu, conformément à ses plans, à ses desseins, ressuscitera un jour toutes les victimes d'accidents mortels et d'autres tragédies de ce genre. Que ce soit à cause d'un être humain qui a été l'agresseur, ou que ce soit un accident, que ce soit la maladie. Dieu a un plan et le but de son plan éventuellement, c'est de donner, comme l'a dit aussi M. Houllier, la vie éternelle, le grand cadeau parmi les autres cadeaux, parce qu'il y aura aussi des récompenses. Jésus-Christ lui-même a promis donc cette résurrection, c'est ce qu'on a vu au dernier jour de la fête, au dernier grand jour, une résurrection à venir lors de laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Mais quel principe biblique fondamental peut nous éclairer dans nos souffrances inexplicables? Est-ce qu'il y a d'autres choses que la parole de Dieu peut nous enseigner? Comment se préparer? Comment vivre la souffrance? Et je pense qu'un principe en plus du temps et des circonstances, c'est celui qu'on retrouve dans Deutéronome 29-29. Souvent, la question qui vient, c'est pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça lui arrive? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... La réponse, ce serait plutôt qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce qui m'est caché que je dois découvrir? Qu'est-ce que Dieu essaie de me révéler s'il y a lieu? Alors, Deutéronome 29-29, frères et sœurs, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Est-ce que Dieu va nous révéler dans nos circonstances, dans nos épreuves, la leçon qu'il veut nous enseigner s'il y a lieu ou la richesse de cette épreuve? Il faut lui demander, mais il faut savoir aussi que tant que ce n'est pas révélé, on peut, et on a une expression au Québec, et elle s'applique bien depuis le changement de la terminologie canadienne, on dit chercher de midi à 14 heures. Avant, on n'avait pas ce système, on disait de midi à 2 heures de l'après-midi, mais de midi à 14 heures. On cherche, on ne trouve pas. Dieu peut nous donner la réponse, mais sachant que la réponse vient de Dieu. Et non pas de nos questionnements seulement. Dieu veut qu'on se questionne pour s'ouvrir à sa réponse. Ça, c'est important. Comme nous l'avons déjà expliqué, la raison de notre existence est claire. Ça ne veut pas dire que nous comprenons pleinement la façon dont Dieu accomplit son plan pour nous. Le jour viendra, on va tout comprendre, on va voir le rapport entre tous les événements que nous avons vécus et ce que Dieu, dans sa gloire, dans sa miséricorde, dans son génie, comment il utilisait les temps, les circonstances pour nous enseigner, pour nous développer, pour faire en sorte que nous soyons des êtres complets. Parlons un peu de souffrance. Il y a eu cette recherche faite par un grand docteur qui s'appelait le docteur Brand. Il a déjà publié un livre avec Philippe Yancey qui explique que l'être humain, dans un certain sens, est né pour souffrir. Comment est-ce possible? C'est qu'en tant que docteur auprès des lépreux, il a été confronté à une réalité qui l'a amené à découvrir un principe fondamental dans le domaine de la biologie, qui éventuellement, il a pu voir les conséquences ou les extrapoler, qu'est-ce qu'il en est du côté émotionnel, du côté spirituel. Ceux qui étaient atteints de la bacille de la lèpre, ils devaient souvent les traiter et lorsqu'ils les visitaient, ils voyaient par exemple que il y avait des doigts qui manquaient à leurs mains, ou qu'il y avait des doigts qui manquaient à leurs pieds, ou que leur nez était comme tout simplement était tombé en lambeaux, les oreilles, toutes les extrémités étaient très atteintes. Alors, il ne comprenait pas la maladie, il appelait cela le fait que la chair tombait comme en lambeaux et que les orteils éventuellement n'étaient plus. Il appelait ça la mauvaise chair. Il y avait quelque chose qui faisait que la chair tout simplement se désintégrait. Jusqu'à temps qu'ils comprennent que les blessures étaient dues au fait qu'elles n'étaient pas prises à temps par la personne qui se blessait, pour la simple raison que la personne ne se rendait pas compte qu'elle était blessée. Pourquoi? C'est que la bacille de la lèpre attaquait les terminaisons nerveuses au bout des orteils, au bout des doigts, dans les lobes d'oreilles, dans le nez. Alors, si la personne, par exemple, se coupait par mégarde, elle ne ressentait rien. Elle ne se rendait pas compte, à moins bien sûr de voir le sang. Et là, elle pouvait intervenir. Mais si c'était une blessure comme se faire écraser, non, la personne ne ressentait rien, donc elle ne prenait pas soin du membre atteint. Et à ce moment-là, tout simplement, le membre, dépérissait parce qu'il n'y avait pas de soin. Alors, le docteur Brand a commencé à prendre soin, justement, et à enseigner à se surveiller à chaque jour pour voir si une partie de leurs membres avait reçu une commotion, une blessure, une brûlure, par exemple. Parce que la personne ne pouvait pas le savoir, n'ayant pas les terminaisons nerveuses pour signaler à la personne le danger. La catastrophe, si vous voulez. Alors donc, il a enseigné à chacun à examiner, à s'examiner, à traiter leurs blessures, il les a aidés, et bien sûr, il a pu ainsi sauver les membres qui auraient été perdus par manque de connaissances et par manque de sensibilité. Alors, vous voyez peut-être qu'il pourrait y avoir une approche différente que l'être humain, le chrétien, devrait avoir vis-à-vis la souffrance, vis-à-vis la douleur. Nous vivons dans une société où la douleur comme telle est perçue comme absolument mal, absolument mauvaise. Dès qu'on a une douleur, on cherche tout de suite à l'enlever, à l'anesthésier, si vous voulez, à l'endormir, sans nécessairement prendre la leçon qui vient avec la douleur, sans nécessairement examiner Pourquoi nous avons cette douleur? Quelle peut en être la cause? Comment pouvons-nous ajuster notre vie à ce signal qui nous dit, attention, quelque chose ne va pas bien. Porte attention. Nous vivons dans une société de réparation immédiate qui nous dit que nous avons droit à une pilule pour chaque malaise et une solution rapide pour chaque problème. Cela fait aussi partie d'une mentalité de victime, d'un refus d'accepter sa propre responsabilité pour ses actions, mentalité qui nous affaiblit en tant que société et en tant qu'individu dans cette société. Si nos ancêtres, ceux qui ont traversé l'Atlantique, par exemple, pour aller fonder le Canada ou pour fonder l'Amérique, si les peuples gaulois avaient eu cette mentalité de toujours dire, oh, il me faut tout de suite avoir ma solution avec mon problème de mal de tête ou mon problème de douleur, et qu'il n'aurait pas agi, non seulement pour corriger une situation, mais aussi pour avoir le courage de la vie. Hein, on a parlé de courage encore une fois dans la sermonnette. Ce n'est pas facile la vie spirituelle, ce n'est pas facile la vie sociale, ce n'est pas facile la vie individuelle. Mais attention de ne pas endormir la douleur ou la souffrance et faire comme si elle n'existait pas et faire comme si nous n'avions rien à apprendre de cette souffrance autre que d'apprendre comment la faire taire, comment la supprimer. La souffrance peut être un outil que Dieu utilise pour sauver une vie, pour enseigner à sauver d'autres vies. Et là, je dois louer les services de traumatologie. C'est justement suite à toutes ces souffrances et à toute cette observation des souffrances que une équipe va travailler avec les accidentés ou avec les grands brûlés ou avec les personnes qui sont dans un état de détresse physique. Ils ont observé tout le fonctionnement du corps, toutes les baisses de pression. Ils ont, par exemple, si on prend le cas d'Harold, Harold, lorsqu'il a été hospitalisé, oui, d'accord, il avait reçu l'impact d'un bolide à 90 km/h. Lui-même devait rouler, je ne sais pas encore combien, mais il devait rouler à au moins 50 km/h, ce qui fait en fait, quand on regarde bien, mettons 50 plus 90, 140 km, comme si on rentrait dans un mur de ciment à 150 km. Quelqu'un me disait récemment qu'il avait travaillé avec une compagnie et il analysait ce qu'un bolide faisait lorsqu'il rentrait dans un mur à 30 km/h. Et c'était déjà désastreux, imaginez à 140 et plus. Ces deux véhicules qui font 90, c'est 180. Alors, ça a été le cas pour Harold. Le bolide, du moins, s'en venait à 90 km, l'a frappé sur le côté avant gauche, ce qui a amené la voiture, bien sûr, ensuite à faire des tonneaux. Mais il a reçu l'impact, donc, sur le côté gauche. Tout le côté gauche a été affecté. C'est-à-dire le pied, hein, le tibia, le fémur, la hanche. Bon. C'est déjà beaucoup. Ensuite, les côtes ont éclaté. Et bien sûr, les poumons ont été perforés. Alors imaginez l'équipe de traumatologie qui connaît l'essentiel de maîtriser tout ça. Il y a eu 14 transfusions de sang en 5 heures, 2 de plasma additionnel, juste pour vous montrer l'intervention pour sauver la vie, pour remettre la pression sanguine à un niveau fonctionnel, plus la capacité de rentrer les gens dans des comas artificiels pour permettre au corps de ne pas, oui, ressentir la douleur. Alors tout ça, c'est venu grâce à l'observation, à tenir compte de la souffrance, à pallier, à évaluer, à demander. comment peut-on aider et non pas faire comme s'il n'y avait rien à faire. Il y a une leçon dans tout ça, quand on voit une équipe qui travaille pour aider physiquement. Est-ce que nous, lorsque nous souffrons, lorsque nous avons un couple qui souffre dans l'Église, ou lorsque nous-mêmes nous souffrons, est-ce que nous intervenons les uns pour les autres? Regardez ce principe dans la lettre aux Galates, chapitre 6. Nous avons eu le privilège, Chantal et moi, d'être impliqués dans la communication entre Harold et Sharon et les frères. D'autres aussi se sont impliqués. On a vu que déjà, ceux qui se connaissaient bien, parce que l'église de East Farnham, la plupart de ceux qui sont là, c'est des membres qui étaient du temps de l'église universelle de Dieu, dans une église tout près qui s'appelait l'église de Magog. Ils se connaissent depuis des décennies et c'est sûr que la communication entre ces personnes est très intense, elle est continue, elle téléphone, courriel, messenger, ça va, c'est constamment. Pourquoi? Dans le but d'accomplir Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Et je ne suis pas le meilleur à ça. Porter le fardeau des autres, ça veut dire prendre le temps d'entendre les cris de souffrance, de participer à la douleur de l'autre, de penser peut-être, oui, à soulager la douleur, mais souvent, notre façon de porter la plus de base que l'on doit accepter en tant que chrétien, c'est de sentir qu'on ne peut pas faire grand-chose. Accepter, souffrir avec ceux qui souffrent, afin de pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent lorsque l'épreuve est terminée, lorsque le fruit est produit. C'est pas facile de se sentir impuissant. Et certains d'entre nous, à cause de ça, nous reculons devant la souffrance. Nous faisons comme si elle n'était pas là. Et nous tombons à ce moment-là parfois dans des raisonnements. Nous sommes là et nous disons, oh, après tout, cette personne a des choses à apprendre. Après tout, peut-être qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Voyez-vous? Et ça nous rassure, mais c'est très malsain. Pourquoi est-ce malsain? Parce que ce n'est pas l'amour, c'est le jugement, c'est l'ignorance, c'est la projection. Et ça, frères et sœurs, c'est très malsain. Ce n'est pas porter les fardeaux les uns des autres. L'exemple le plus puissant de quelqu'un qui a porté les fardeaux des autres, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Mais il faut comprendre jusqu'à quel point il l'a fait et surtout comment c'est un phénomène ou c'est quelque chose à exercer que seul Jésus-Christ a exercé parfaitement, mais c'est notre exemple. Nous allons voir un passage que nous connaissons bien dans Ésaïe 53. Verset 4, et on va faire le rapport avec comment Matthieu va nous faire comprendre ce que Jésus-Christ a fait et ce que nous pouvons comprendre, c'est ça va nous aider à développer ou à laisser Dieu développer en nous la compassion, l'entre-gens et l'amour du prochain. Ésaïe 53, nous comprenons très bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors, c'est bien sûr cette révision, hein, de la Pâque. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Souffrance, donc, douleur. Et regardez comment était la réaction initiale. Et nous l'avons considéré comme puni, On fait souvent le rapport entre souffrance et punition. Et quand c'est arrivé à quelqu'un d'autre, c'est parce que lui était puni de Dieu, frappé de Dieu, humilié de Dieu. Excusez-moi, mais c'est comme dire, il avait besoin de ça pour sa croissance. Mais lorsque Jésus guérissait durant son ministère physique, ce qu'il faisait, c'était l'effet inverse. Il prenait sur lui les souffrances des autres et non pas s'éloigner des souffrances des autres en lançant avec cet éloignement un jugement. Un passage maintenant selon l'évangile de Matthieu va nous montrer ce phénomène de prendre la souffrance, de s'attribuer la souffrance. Et bien sûr, c'est un phénomène qui dépasse notre compréhension, mais il faut au moins le comprendre pour le respecter et pour, jusqu'à un certain point, en tant que frère et sœur dans l'Église, l'observer, c'est-à-dire le regarder, l'utiliser dans le sens de demander à Jésus-Christ de transférer nos peurs, transférer nos souffrances, transférer nos incompréhensions, transférer parce que lui peut porter ce que parfois nous avons de la grande difficulté à porter. Alors, verset 14, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. C'est très simple comme récit. On voit Jésus. Il va chez Pierre, il connaît Pierre, c'est un de ses disciples, il y a une belle complicité entre les 12 et Jésus-Christ. Et là, bien sûr, dans son cheminement quotidien chez Pierre, voilà que la belle-mère, c'est-à-dire la mère de l'épouse de Pierre, est couchée ayant la fièvre. Alors, Jésus dit, certainement, elle est punie. Non, excusez-moi. Non, on ne voit pas qu'il dit ça. Ah ben, ça arrive à tout le monde. Non, il n'a pas dit ça non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le transfert. C'est-à-dire qu'il va s'associer à la personne et il va porter son fardeau. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Maintenant, où est allée la fièvre? Il la quitta. Mais il y a un prix à payer pour ça. Il a pris nos fardeaux. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est ce qu'on voit un petit peu plus loin. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Et je suis sûr qu'il pouvait et il devait identifier les différentes maladies. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. C'est le même là que nous avons lu auparavant. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il a porté le fardeau de la maladie. Est-ce que c'était gratuit? Est-ce que c'était facile? Vous allez dire, mais c'était le Fils de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que ça s'est manifesté lors de son arrestation. Tous les coups qu'il a reçus est en rapport avec tous les fardeaux qu'il s'était chargé. C'est un phénomène spirituel difficile à comprendre, je l'avoue, mais c'est quelque chose que lorsqu'on regarde ensuite comment Jésus agit, autant avant qu'il soit fait chair, en tant que la parole qu'on retrouve dans les écrits hébraïques, on comprend que lorsque Jésus prend des décisions de guérir, ou même parfois d'exécuter, c'est sa propre exécution qu'il prépare. C'est sa propre souffrance qu'il prépare. C'est un transfert qu'il est en train de préparer. C'est très profond, frères et sœurs. Tout ce que l'Éternel à planifier dans les Écritures hébraïques avait un prix. Et c'est lui qui allait payer le prix. Ce phénomène de transfert est puissant et nous apporte la sobriété et la réflexion. L'existence de la souffrance dans son ensemble nous fait réfléchir sur la condition humaine et nous amène encore plus loin. De mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. On entend, parler de violence, on entend parler de ce qui s'est passé depuis 2 ans avec Israël, on entend ce qui se passe aussi avec les enfants à Gaza. Tout ça, bien sûr, le fruit de décisions aberrantes, notamment avec des gens qui se servent des enfants comme boucliers humains. La violence aléatoire aussi, qui arrive à de bonnes personnes, des accidents, des catastrophes naturelles. Nous sommes réduits à nous demander encore une fois pourquoi. Certains vont dire, Dieu est-il juste? Et nous-mêmes, nous disons, nous avons pourtant prié pour la protection divine. Nous avons pourtant prié, est-ce que je devrais continuer à prier pour la protection divine? Je pense que, je ne sais pas si les Griders ont pu parler avec certains d'entre vous, mais je pense que leur chant qui montait, la musique qui montait venant de leur cœur, de leurs mains, de leur bouche, est le meilleur témoignage. Eux, ils ont été, dans un sens, les gagnants de cette épreuve. Espérons que nous nous réjouissons avec eux. Espérons que nous nous réjouissons avec le fait que Dieu n'a pas jugé bon qu'il était temps pour Harold. J'ai hâte de le taquiner, Harold. Quand je vais lui dire, Harold, je pense que tu n'étais pas prêt, toi. Tu avais encore des choses à apprendre, hein, Harold? En voulant dire, je suis content que tu sois en vie. Je suis content que Dieu t'a confié cette épreuve. Je suis dans un sens, je vis cette épreuve partiellement avec toi, mais je suis convaincu que tu auras le bénéfice de cette épreuve. Personne n'est à l'abri des effets du mal. Les Écritures montrent que les serviteurs de Dieu ont souvent été des victimes innocentes de mauvaises choses. Le Fils de Dieu nous dit la lettre aux Hébreux, on ne s'y reportera pas, je vais la lire pour vous. La lettre aux Hébreux 12:3 nous demande de considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, une telle résistance de la part des pécheurs. Eux ne se sont pas gênés pour transférer leur culpabilité sur Jésus-Christ, leur accusation, leur mauvaise pensée. Et il dit, considérez ça afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a donc un danger de se lasser, de se décourager. Je pense que les deux messages aujourd'hui nous disent, prenez courage. Prenez courage. Le témoignage, frères et sœurs, des enfants concernant l'équipe des soignants à St. John Regional Hospital confirme ce principe. Tout le personnel s'est affairé et ont travaillé en unité. Ils communiquent fréquemment entre eux, mais aussi avec la famille. Chaque mouvement qu'ils font, ils expliquent pourquoi ils le font, ils expliquent ce qui pourrait arriver et ils rassurent de la procédure qui sera entreprise. Travail d'équipe, encore une fois. Lorsque les enfants ont appris et le personnel médical a appris que l'Église, les enfants de Dieu, se sont mis à prier dès qu'on a eu la nouvelle. Bien sûr, elle est arrivée tard. La nouvelle est arrivée presque 12 heures après l'accident. Mais dès que les frères se sont mis à prier, Il y a eu un changement majeur chez Harold. L'équipe médicale avait dit aux enfants, on a pu lui sauver la vie, mais il ne pourra jamais marcher. Ils ont partagé, ils ont évalué, ils ont été selon leur expérience. Ils n'ont pas voulu créer de faux espoirs. Parce que ça aussi, ça fait partie de la difficulté. Ne pas créer de faux espoirs. Parce qu'un espoir différé rend le cœur malade. Mais lorsque les prières ont monté, le personnel médical, qui ne savait pas nécessairement, mais qui ont compris après, parce qu'ils l'ont su par les enfants, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, maintenant, nous pensons qu'il pourra marcher. Bien sûr, ce sera une longue remontée. Et il y a des exemples, bien sûr, qui peuvent nous encourager, en tant qu'enfants de Dieu, à dire, est-ce que moi, je suis prêt à me battre pour remonter, pour me rendre fonctionnel? Un exemple très connu, d'un président des États-Unis, le 26e, Theodore Roosevelt. Son père, lorsqu'il l'a vu, alors qu'il était jeune, il a trouvé qu'il était très maladif. Il souffrait d'asthme débilitant, entre autres, et son père lui a dit, Théodore, tu as de l'intelligence, mais tu n'as pas le corps. Et sans l'aide du corps, l'esprit ne peut pas aller aussi loin qu'il le devrait. Tu dois te faire ton propre corps. C'est une dure corvée que de se faire son propre corps. Mais je sais que tu y parviendras. Vous savez, un père qui aime son fils a peu de choses parfois qu'il peut faire autre que édifier, encourager, transmettre sa confiance. C'est ce qu'il a fait. Alors, Teddy, comme les Américains allaient affectueusement l'appeler, partagea un jour à un ami l'impact que les paroles de son père ont eu sur lui. Il dit, j'ai entrepris aussitôt un programme de développement physique faisant de l'exercice dans un gymnase avec des poids et des punching balls. Teddy se consacra courageusement à améliorer sa santé. Il en recueillit les fruits et développa son corps puissamment. Et cessant même d'être handicapé par l'asthme. Et bien sûr, c'était pas la fin de ses épreuves parce que en une seule journée, il a perdu sa mère, il a perdu son épouse. Et il avoue que il a été complètement dépressif suite à ça. Il a réfléchi constamment, il cherchait à comprendre cette tragédie. Il est arrivé à cette conclusion que la volonté divine ou un étrange destin terrible. Jusqu'à ce que il soit président, qu'il puisse aider son pays, son peuple à faire face au combat de la Deuxième Guerre mondiale sur deux fronts contre les puissances nazies et contre le Japon. Et c'est dans ce moment-là qu'il a vu que tout ce qu'il avait appris lui rendait la capacité de comprendre le cœur de son peuple, de comprendre les besoins, de faire appel à la guérison, de faire appel au courage, de faire appel à la volonté que Dieu lui avait instillée. Alors, frères et sœurs, ça peut être long parfois de remonter et de sortir d'un milieu de souffrance, d'une épreuve. Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider parce que lui-même, il en est remonté. Jésus-Christ est remonté. Bien sûr, c'était par la volonté du Père, par le plan du Père. Allons vers la conclusion. Certainement, ce monde n'est pas tel que Dieu l'a voulu. Pendant ce temps-là, le Créateur permet que cela continue pour ses desseins. Il intervient, mais pas à tout moment pour tout le monde. Quand le temps sera venu, bien sûr, Jésus-Christ va revenir dans la gloire avec ses anges. Et Paul a dit, j'estime. Et pourtant, il avait déjà eu son lot de souffrances, mais il dit ceci, j'estime que les souffrances du temps présent, incluant tous les coups qu'il avait reçus, les 39 coups, là, c'est 40 moins 1 qu'il a reçus, incluant les naufrages qu'il a faits, incluant les bandits qu'il avait dévalisés sur les routes, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Bien sûr, le soutien que Paul a reçu, c'est par la prière, par la vision, par le fait qu'il s'est porté volontaire pour aller là où son Christ allait, son Messie allait, à le suivre dans les endroits les plus sombres, les plus risqués. Vous savez, et même l'expérience de Paul dans la souffrance d'un naufrage. Il n'a pas eu d'accident de voiture, Paul, à ma connaissance. Surtout pas de voiture moderne, ça c'est certain. Mais il a eu quatre naufrages, au moins. Déjà dans la lettre aux Corinthiens, il en parle de trois. Ça c'est avant le naufrage qu'il a eu avec, je pense, c'est quelque chose comme 283 personnes. Lors de son voyage vers Rome, alors qu'il était prisonnier déjà. Mais savez, là, si vous voyez ce récit dans Actes 20, ça vous encourage à faire une lecture lorsque vous êtes un peu comme déprimé ou vous posez des questions sur votre vie. Vous allez voir dans ce récit-là que Paul est solidaire, d'abord avec Dieu, bien sûr, mais avec tous les passagers durant toute cette tempête, mais qu'il a une force de plus que les autres n'ont pas. Parce que il est en contact avec Dieu et Dieu lui a dit, je t'ai confié toutes les vies sur ce bateau. Autrement dit, toi, tes épreuves d'auparavant, ton expérience dans le naufrage vont être utilisées pour sauver des vies. Et c'est intéressant, vous voyez que oui, il y a eu un accident, le bateau a finalement été complètement démoli par les vagues, après ça a été échoué, mais personne n'a été tué. Et Paul le savait, et Paul encourageait, et Paul dirigeait, on pourrait dire, spirituellement le bateau. Alors, frères et sœurs, en conclusion, le jour viendra où il n'arrivera plus de mauvaises choses aux bonnes personnes, seulement de bonnes choses. Nous prions pour que Dieu accélère ce jour-là. Dans l'intervalle, serrons-nous les coudes, distribuons des gestes et des paroles de soulagement de la souffrance. Merci de porter à nos côtés les fardeaux du corps, les fardeaux les uns des autres. Bonne fin de sabbat.